Bonjour et bienvenue à Pack the Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Alors aujourd'hui je suis très content d'être là avec un copain qui m'a tout appris dans le rugby. Donc il est des couleurs ciel et blanc de Racing 92 et franchement je suis content aussi. Maintenant finalement on a un peu de ciel bleu aussi. Donc je suis avec Théodore de Saint-Rémy. Salut Théo.
Ouais, salut Thierry, sous le soleil, c'est vrai, on peut lever le nez et regarder du bleu au-dessus de nos têtes, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis pour quelques copains peut-être qui m'écoutent, avec qui j'ai joué sous d'autres couleurs, j'ai aussi du violet et blanc dans mes placards, et puis bien d'autres couleurs, du tango et noir pour la CBB, et du rouge, jaune et noir pour le rugby club Orléans. Tout ça, c'est un peu long pour parler de moi parce qu'on a beaucoup d'autres choses à voir aujourd'hui.
Exactement, on a plein de rugby comme la semaine dernière. Il y a beaucoup en ce moment. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et notamment, donc aujourd'hui, le plan, c'est qu'on va arriver à parler de ces deux super matchs France-Australie. La dernière, bon, on a parlé dans notre épisode 52, bien sûr. Restez à la fin parce que j'ai un petit entretien avec Xavier Brizard, un écrivain qui a écrit un livre super intéressant. Donc, on va découvrir beaucoup plus par rapport à ça. Donc, c'est un livre qui s'appelle
L'art de la guerre du rugby.
Exactement. Là, on y va tout de suite. Je sais que toi, tu adores les Lions, donc on va parler tout de suite. Des Lions alors versus South Africa A, donc c'est l'équipe A, donc j'avais dire, j'imagine c'est l'équipe B d'Afrique du Sud. Quand même, ils ont le retour de Faf de Clare, mon numéro 9 préféré, et Colby aussi. C'est pas une équipe A, c'est ça, ou équipe B.
Ouais, de toute façon, équipe A, équipe B en Afrique du Sud, c'est toujours des grosses équipes avec la même culture du jeu, un jeu extrêmement physique, extrêmement costaud, extrêmement engagé. C'est toujours un très très grand challenge de jouer ces équipes-là. Qui est écrit A ou B, les mecs qui revêtent le maillot du Springbok, je pense qu'ils sont exactement dans le même état d'esprit et ils ont un grand réservoir de joueurs. Donc effectivement, et d'ailleurs on a vu, hein, puisque cette équipe-là a quand même battu les Lions, c'est pas le début officiel de la tournée, donc on va considérer que c'est encore des matchs d'entraînement.
Mais... ouais, c'est un petit leçon quand même de dire, ne vous venez pas ici comme ça,
hein, c'est
ils
ça.
Ont battu 17 à 13. Même si tu parlais de costaud, il y avait quand même le retour de Alwyn Wynne-Jones après son grosse blessure début de ce tournoi contre le Japon, et je pense qu'il avait pété une épaule, bah, il est revenu déjà.
Oui, ça m'a surpris, effectivement. Je pense qu'il sera donc là peut-être pour les vrais test matchs de la tournée. Donc, ce qui est quand même une bonne nouvelle, tout simplement, pour le spectacle et pour l'équipe. C'est l'âme de cette équipe. Hein.
Oui, quand même, il y avait un autre match aussi des Lions où ils sont bien remis.
Oui, ils ont joué contre la province des Stormers, qui est une belle province du championnat sud-africain. Ils leur ont passé 50 points. Donc là, il y a un écart, hein, comme ils avaient battu les tout premiers en passant... 70 points à la province des Sharks, mais c'était pareil, c'était peut-être des équipes un peu B, je sais pas trop. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ils ont fini leur match d'entraînement, ils vont maintenant attaquer la vraie série, puisque la semaine prochaine, le 24 juillet, ils jouent au Cap contre l'équipe des Springboks, et ils remettent ça à Johannesburg le 31 et à Johannesburg au final le 7 août. Donc il faut aussi réaliser la longueur de la saison de ces joueurs-là, hein. Les mecs qui sont là, ça fait un an qu'ils jouent, hein. Donc c'est impressionnant, et je pense que ça va être une très belle série. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un petit épisode ou des petits reminders. C'est un peu les vacances pour nous, mais on va faire le maximum pour nos écouteurs.
Ouais. Et en plus, en sortant de cette super série France-Australie, ça me donne vraiment envie de vraiment guetter Afrique du Sud Lions quand même.
Oui, tout simplement parce que c'est des sommets de rugby, même si c'est hors compétition officielle, ce sont que des matchs amicaux, mais quel sommet d'avoir la chance de voir trois équipes, une équipe championne du monde et ce qui se fait de mieux en Europe britannique qui s'affrontent trois fois de suite. C'est comme un livre, on a envie de lire le premier chapitre, le deuxième, le troisième ou une trilogie, et c'est ça qui est très sympa dans ces trucs-là, c'est que de regarder ça un petit peu comme une série, quoi.
C'est The Hunger Games. Avant de parler de le match Down Under, il y avait un autre match All Black.
Oui, bah les Blacks jouaient effectivement une deuxième fois d'affilée contre les Fidji, donc ils les ont battus assez largement. Néanmoins, c'est pas une victoire indécente, hein. Moi, j'ai vu un match très plaisant avec notamment 20 premières minutes tout à fait équilibrées, des Fidjiens qui ont vraiment des joueurs de classe qui sont fantastiques. Je regrette chaque fois que je le vois jouer, j'en veux à mes amis du Racing d'avoir laissé partir Léoné Nakarawa, qui est un joueur extraordinaire, tout à fait extraordinaire. Même si là, il a pris un carton jaune, ça a fait mal à son équipe, mais en tout cas, il est fantastique. Vola Vola, qui était passé par le Racing aussi, qui était champion de Pro D2 avec Perpignan cette année, qui est un petit peu l'ouvreur titulaire maintenant des Fidji, qui a fait un très bon match également. Après, les Blacks sont intraitables. Voilà. Donc, dans la lignée de Whitelock, deuxième ligne, il y a 125 sélections. Hein. Je rappelle que le record chez les Blacks, c'est Richie Mako, qui en a 148. Donc, je ne sais pas si Whitelock ira, mais 125 en deuxième ligne chez les All Blacks, il faut juste se rendre compte de ce que c'est. C'est monstrueux. Voilà. C'est absolument fantastique. Ils ont fait un match, comme d'habitude, ultra pragmatique. 5 fois dans les 22 des Fidji, 5 essais. Et à la 6e fois où ils y rentrent, 6e essai. Donc tout est dit. Ce sont des joueurs d'une qualité technique et d'une détermination collective absolument sans faille. Toujours difficile de voir qu'il y a dans leur rang des Fidjiens de naissance. Hein. C'est Vouris, qui est un joueur extraordinaire qui joue à l'aile. Aujourd'hui, il porte le maillot des All Blacks. Il est né au Fidji, ça devrait être un Fidjien. Et c'est aussi toute la limite, mais on ne se gêne pas, nous non plus, puisque Vakatawa, chez nous, il est né au Fidji aussi, il est en équipe de France. Donc si on était plus près, on en aurait beaucoup comme eux. Mais c'est vrai que c'est un peu dur, je trouve, de voir ces mecs-là, Fidjiens de naissance, qui marquent contre leur ancienne équipe. Moi, ça me fait toujours un petit quelque chose. Et puis, un détail, à la 49e, il y a déjà 35-40 points d'avance, les mecs ils continuent d'appuyer, ils continuent, et tu as à un moment Vola Vola qui fait une interception, qui va peut-être aller marquer, et ben non, tu as l'ami McKenzie, il y a 30 grains d'avance, c'était à la 65e, mais il va quand même le reprendre pour l'empêcher de marquer son essai, c'est-à-dire qu'il ne lâche jamais. Donc voilà, chapeau les Blacks, chapeau les Fidjiens qui n'ont pas du tout à rougir. C'est pas un match à 100 points, ça n'a rien à voir, je trouve. Et j'ai passé un très bon moment devant, ouais, comme un récital un peu. Voilà, c'est du récital, mais avec des gros costauds aux manettes, quoi.
Bah, tu parlais de deuxième ligne. Bon, sur le banc, il y a quand même Brody Retallick qui était World Rugby Player of the Year 2014, non, c'est quand même. Donc c'est
hallucinant. Sans parler de Scott Barrett, hein, qui y a un ou deux essais dans le début, des essais d'école, mais avec des renvois pris par Scott Barrett, mais à 4,50 m de haut, nickel, rien qui bouge derrière, deux, trois actions, hop, une mêlée, derrière la mêlée, hop, remise intérieure, enfin, très, très costaud, très impressionnant, et ouais. L'impression d'écouter du Mozart.
Ça s'entend que c'était un don de plaisir.
Tout à fait.
Bon, don de plaisir, bon, on va parler de nos matchs à nous. Hein. Pourquoi pas, on va démarrer avec le deuxième match France-Australie, parce que plaisir, c'est vraiment le nom de ce match-là.
Eh bien, exactement.
Allez, France-Australie pour match 2. Alors, les Australiens, ils étaient tout contents parce qu'ils venaient de battre les Américains en basket. En même temps, moi, je regarde ça sur In English sur YouTube. Ils ont annoncé, ils aiment bien annoncer des noms en français. Je trouve ça assez bon. Ils disent Couillou et Villiers. Je trouve ça assez chouette. Allez, le match démarre. 2 minutes. Il y a Vincent qui plaque. Il y a Dante qui essaie de gratter le ballon. Récupère le pénalité. Jaminé, il tape le pénalité. 3-0 pour nous tout de suite. Australie attaque, mais c'est Jelance qui nous récupère le ballon. Jeu assez libre pour le moment. Les deux équipes ont envie de courir. La preuve à 6 minutes. Super essai de 50 mètres de numéro 11 Australie. Mais malheureusement, mais heureusement plutôt, pour nous, il y avait en avant 15 minutes plus tôt, donc l'essai est annulé. Jamais n'étape un autre pénalité, 6-0 pour nous. Temps très fort pour les Australiens, un autre essai de 11 annulé pour un en avant, mais ils marquent leur premier point, 6-3 toujours pour nous. Cet 11 australien, bon, je dis 11 chaque fois parce que j'arrive pas à prononcer son nom, il monte encore ses cannes, il fait un remonti des 50 mètres. Les Français ont un peu mal d'avancer. Heureusement, il y a Barlow et Jelanche. Le match est très très ouvert. Banks s'échappe, plaqué par Villiers. On récupère le ballon, mais c'est un peu brouillon. Le ballon arrive dans les mains de Pono, qui aime faire un truc, c'est d'aller tout droit très vite. 1-2 avec Waki et essai pour nous.
Celui qui court très vite, le 11, c'est Marika Koroibete, qui est vraiment, effectivement, un joueur du feu de Dieu.
Ouais. Comme toujours, après 3 syllabes, j'ai du mal. Les Wallabies n'aiment pas trop beaucoup cet essai. 13-3 devient 13-16 après un pénalité. Il y a beaucoup de plaquages qui fait ouf. Les Kangaroos dans le nôtre 22, mais pas pour longtemps. On échappe. Et nous, on est dans l'or 22 avec un Allez les Bleus. Merci beaucoup. Bravo aux supporters à Melbourne. 16 à 6. Temps fort pour Australie. C'est logique par leur numéro 9. D'un coup, c'est 16 à 13. Le match redevient serré. Début de deuxième mi-temps, ça démarre avec un solide avancement des avants bleus jusqu'à la 5 mètres avant que le capitaine Hooper ait fait son truc et il chope le ballon. 20 secondes plus tard, ils sont dans notre 22, penalty contre nous, 16 à 16. Ce match est complètement ouvert. Koro Ibete nous embête, les plaquages de Vincent nous rassurent. Jaminé fait un super percé à la brise du lin. Waki et Kuyo avancent bien, on campe de leurs 5 mètres d'Australie pendant 5 minutes. Tao Fifenois nous a presque à mettre son essai, mais en avant, on se contente avec 3 points de plus, 22 à 16, toujours à 100% de Jaminé. Penal touche pour les Wallabies, mais quelle série de Waki. Il chope le ballon en touche, il fait un percé de 20 mètres, il joli passe pour Villiers, suivi par Kuyu. D'un coup, on est chez eux, on avance petit à petit, et c'est Waki qui a failli mettre l'essai, mais non, finalement, on prend les 3 points, 25 à 16, avec 60 minutes. Les coachs australiens commencent à dire des gros mots encore. Dialou nous montre qu'il lui aussi, il aime plaquer. Entrée de Lonegan, le talonneur australien, j'en parle simplement parce qu'il a peut-être le coupe de cheveux de ce tournoi. Le 17 français, un peu moins. Beaucoup de joli rugby jusqu'à Banks perce le centre du terrain, le ballon finit dans les mains de Hooper avec sa tête de Thanos, pour un joli essai. 25 à 13 avec 8 minutes. Après la défaite de la dernière minute de la semaine dernière, la question c'est est-ce qu'on peut tenir ? L'Australie remonte 40 mètres très très vite et trouve le pénalité. Ça ne sent pas très bon pour nous car c'est 25 à 26. Les Wallabies sont devant pour la première fois du match. 4 minutes pour trouver la victoire. Ça commence avec un mal gagné. Notre première de match, je pense. Nos coachs sont contents. Nous aussi, car Pen était contre nous. Et Jaminé reste à 100% pour la soirée. 28 à 26 pour nous avec 2 minutes. Il faut juste parfaire une pénalité et Makenou le prend le ballon. Et là, il faut juste le botter en touche et ouf, on arrive. Victoire, la première depuis un bon bout de temps.
Ouais, la première depuis plus de 30 ans en terre australienne. Donc, il ne faut pas minimiser l'exploit de ces garçons. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que cette équipe de France est complètement privée de ses cadres. La plupart des joueurs de l'équipe de France, entre guillemets titulaires, ne sont pas là. Donc c'est d'autant plus un exploit. Et c'est, on va en reparler après, l'incroyable profondeur du réservoir de joueurs en ce moment, de très très bon niveau, qui vont être à disposition des sélectionneurs de l'équipe de France, à qui je souhaite bien du courage pour composer les équipes, parce que franchement, les mecs, il n'y a rien à dire. Ce qu'ils ont fait sur ce match-là, ils ont été se le chercher avec une énergie de nature à tout simplement déplacer les montagnes. Voilà, ils ont bougé l'île-continent et franchement, c'était absolument top. Tout ça avec à l'arrière un jeune joueur qui joue juste en Pro D2. Quoi. Melvin Jaminet, c'est quand même un mec qui joue en Pro D2. Et le mec, il est en équipe de France et il enquille et il va participer à la première victoire de son équipe en terre australienne depuis 30 ans. C'est génial, j'ai rien à dire. Faut parler du match d'après.
Ouais, je pense qu'on y va tout de suite. Mais ce qui était vraiment agréable dans ce match, c'est bon, c'était très ouvert les deux côtés. Mais une défense sublime, je trouve. Il y avait 25 plaquages pour Vincent. Waki était superbe, Diallo aussi. Vraiment,
oui,
bravo.
Oui, ils ont effectivement 25 pour Vincent. J'ai vu Diallo 23, Cyril Cazo 20 plaquages, le capitaine Anthony Gélonge 23 plaquages. Donc, effectivement, des chiffres comme ça veut dire aussi que les autres ont beaucoup eu le ballon et ont beaucoup attaqué. Mais ça révèle des valeurs morales et puis un groupe qui se constitue pour faire face à l'adversité de manière absolument remarquable. Et c'est ce qu'on aime dans ce sport, hein. Donc c'est top.
Si on peut avoir plus de plaquages dans un match que son âge, c'est déjà pas mal.
C'est ça. Et c'est de plus en plus dur en vieillissant.
Grave. Allez, si on passait sur ce troisième match.
Ouais, on y va. Scénario comparable hein, d'ailleurs.
Allez, tout de suite à test 3. Les Australiens sont sous pression. Burns nous donne tout de suite le ballon et Jaminé de USAP nous montre qu'il se croit en lui. Petit coup de pied à suivre pour Thomas qui réussit de gratter le ballon des Wallabies. On est dangereux dans leur 22. Pénalité pour nous, Jaminé prend les 3 points gentiment. Les Jaunes veulent plutôt un match musclé. Le 11 qui s'appelle
Marika Koibete.
Merci. Essaye de péter la mâchoire de notre numéro 8, je lance. Il prend un carton rouge logique ou pas logique, on va en parler après. Quand même, on joue 15 contre 14. Touche pour nous, Kuyo a failli marquer son essai, il fallait attendre juste l'action après. Il démonte son vis-à-vis pour marquer son premier essai en bleu, je le trouve très en jambes depuis le début du match. 10-0 pour nous à 9 minutes. Une minute plus tard, le 9 McDermott prend sa revanche suite à un joli percé et passe de son capitaine Hooper. 10-7 devient 13-7, devient 13-14 suite à une interception du 10 australien. Jolie passe décisive de notre numéro 9 Kuyu. À 22 minutes, on toque sur la porte pour un autre essai, mais pénalité contre nous et avec un autre pénalité contre nous, donc ça devient 13-17 pour eux. Dans cette période, peut-être un carton contre Jolonche, l'arbitre a dit non, mais Hooper réplique à l'arbitre « There's 37,000 people here who think differently ». Je trouvais ça assez drôle. Match très haché pour nous, on n'a pas eu le ballon depuis longtemps. Finalement, on voit un super passé de Jaminé, Kuyu fait son passe pour Jolonche un peu tard, pas grave, Waki nous met un super essai en sautant au-dessus de tout le monde. Tous les profs de français en Australie sont contents, car on gagne 20-17. C'est tout de suite suivi par un magnifique essai coup de pied à suivre par Jaminé pour Teddy Thomas, mais non, en avant deux minutes avant, un peu comme le dernier match pour l'Australie. Un autre pénalité contre nous, 20-20 pour le mi-temps. On n'a pas trop l'impression qu'ils ont un joueur de moins, les Rollerbees.
Ouais, c'est vrai que sur cette première période, je pense que on laisse un petit peu passer le coche quand même. Finir à 20-20 sur cette mi-temps, je pense que c'est un petit peu là qu'on perd le match, dans la mesure où... Marika Koroibete, c'est quand même leur arme offensive principale. Et ne pas avoir su profiter de cette supériorité numérique pour se détacher, je pense que ça fait mal à la fin, comme on perd de très peu à la fin. À la fin, on va dire que les valeurs se nivellent un petit peu quand il y a de l'infériorité numérique, parce que tout le monde est fatigué. Mais pas avoir su profiter du coup psychologique et du surnombre, je pense que, voilà, je pense que c'est dommage. Maintenant, c'est néanmoins une très bonne mi-temps. Kuyu est un peu puni de son ambition parce que à la fois ses actions ont mené aux premiers essais, etc. Et à la fois, quand il se fait intercepter, il joue très près de la ligne défensive en allant provoquer beaucoup lui-même en tant qu'attaquant, en portant le ballon et en passant la balle très tard. Et on sait qu'on s'expose à des contres comme ça. Et c'est vrai que le contre, il nous fait très mal. L'essai sur interception, il fait mal. Mais deuxième mi-temps, allons-y, le match n'est pas terminé.
Ouais, ça démarre avec un drop raté de 45 mètres que j'ai pas trop compris. Hooper is Hooper, il chope le ballon en portant, les Wallabies sont chez nous. Mais après, Waki is Waki, et il fait la même chose. Mêlé pour nous dans notre 22, Kuyu pour Teddy Thomas, chip and chase, comme ils disent en anglais. Ça finit dans les mains de Barassi, qui marque un des plus beaux essais de l'année. 27-20 pour nous, ça sent bon. Mais on n'arrive pas à tuer cette équipe, le petit tank australien Tupou marque un essai tout en force, 27-27. Bomba nous chope un ballon, mais Jaminé rate le pénalité, bizarre. Mais le 10 australien fait la même chose. Alerte de mini-mollet avec l'entrée du numéro 16 français. Encore et encore des pénalités contre nous, il nous démolit dans le mêlée avec 60 kilos en moins. C'est le numéro 2, Dre 2 d'Australie qui marque un essai en force, heureusement annulé par un en avant. Mais on a du mal à sortir de nos 22 depuis 10 minutes. On donne 3 points et peut-être la victoire avec 7 minutes qui nous restent. Finalement, Jaminé égalise, 30 partout. On est pénalisé en mêlée, ça devient 30 pour nous, 33 pour Australie. Finalement, on a une dernière opportunité qui ne marche pas. On perd le match, mais j'ai pas l'impression de perdre cette série.
Ouais, la fin de match manque pas de panache côté français parce qu'ils auraient pu choisir de la taper pour tenter le 33-33, quoiqu'elle était difficile parce qu'elle était quand même loin et en coin, la pénalité. Ils prennent la touche, ce qui à mon avis était la bonne option pour aller gagner et le match et la série. Ils attrapent le ballon, malheureusement sur le maul qui suit, il y a un Australien qui s'infiltre dans le maul et qui enterre le ballon et là c'est terminé parce que c'est mêlé pour les Australiens et donc fin du match. Donc effectivement, on n'a pas du tout le sentiment d'avoir perdu, ni ce match, ni cette série. Quand on voit sur les 3 matchs d'affilée, 2 points d'écart, 3 points d'écart, à très haut niveau, ça veut tout simplement dire qu'on boxe complètement dans la même catégorie que l'équipe d'Australie avec notre équipe B, ou presque équipe B, on va dire. Et ça, c'est quand même un enseignement absolument fantastique. On a vu sur ce match-là des choses démentes. L'essai que marque Pierre-Louis Barassi. Alors, faut pas oublier que sur cet essai-là, pour le coup, on profite de la supériorité numérique parce qu'il manque un ailier. Et on voit bien que Barassi est un peu tout seul à la fin. Néanmoins, il a quand même des jambes de feu. Hein. C'est pas pour rien qu'il avait été appelé à la Coupe du Monde. Il avait été, tu te rappelles, pour suppléer la blessure de je sais plus quel centre. Il avait été appelé en cours de Coupe du Monde. Donc, c'était pas une erreur de casting. C'est un très bon joueur, c'est évident. Cet essai, il est juste sublime. Très bonne mêlée, le petit jeu de Kuyu, Teddy Thomas, petit coup de pied pour lui, qui remet à l'intérieur, et ensuite à Jaminet qui arrive à trouver effectivement Barassi, et c'est un essai de 90 mètres au niveau international entre équipes qui se valent, c'est quand même rare et c'est magnifique. Et aujourd'hui, c'est les Français qui les marquent ceux-là. Et quand tu vois, s'il fallait donner une victoire au point, on perd 2-3 points. Nous, on a marqué cet essai-là. Eux, ils ont marqué un essai intercepté qui est assez moche. Voilà. Donc, on aurait aussi bien pu le gagner. Néanmoins,
ils n'ont pas de points pour le style, c'est ça ?
Ouais, ils n'ont pas de points pour le style. Et néanmoins, il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même joué à 14 pendant 75 minutes, ce qui est quand même beaucoup. Qu'ils ont plutôt gagné la confrontation physique, effectivement, en mêlée, en touche et même parfois dans les mauls, ce qui n'est pourtant pas toujours leur fort aux Australiens. Donc, il y a un sujet là-dessus, mais on parle de la jeunesse de nos joueurs, de leur inexpérience à très haut niveau, et je pense que ça compte. Maintenant, moi, ce que je trouve absolument fantastique, c'est que voilà, on a une génération, une profondeur de banc pour l'équipe de France en prévision de 2023. On l'a déjà dit 10 fois, mais c'est absolument fantastique d'avoir ces joueurs-là. Et c'est même très compliqué, vraiment, de se dire qui va être titulaire en 2023 en France avec le nombre de joueurs de grande qualité qu'il y a, qui sont un peu de la même génération. C'est fantastique.
Bon, à ta constante tout de suite, qui pour toi a gagné, on va dire, un peu dans les yeux des sélectionneurs ?
Bah, incontestablement, je pense que Jaminet, qui c'était vraiment la surprise du chef, la trouvaille, parce qu'il est en Pro D2, objectivement c'était complètement inattendu, même s'il va jouer en top 14 l'année prochaine, il a marqué des points parce que c'est un jeune joueur qui a montré un mental d'acier et une super capacité à délivrer du jeu au pied dans les grands moments.
Oui, bien dans les airs aussi.
Dans les airs, très bien. J'ai trouvé Arthur Vincent remarquable, oui. Remarquable en défense, remarquable en attaque. En plus, on sent que c'est un type charismatique qui a de l'impact sur ses camarades, et ça, c'est important. Et puis moi, je suis très, très fan d'Anthony Gélonche, qui est vraiment un joueur dur. Et il faut des joueurs durs, il faut des joueurs qui fassent mal aux adversaires pour être champion du monde. Donc je pense qu'un joueur comme ça, il aura vraiment toute sa place dans les années qui viennent, principalement ceux-là. Et puis Gaëtan Barlow, que je connaissais honnêtement pas très bien, qui a fait quand même une tournée du feu de Dieu. Il a été titulaire sur les 3 matchs, il a retourné de l'Australien dans tous les sens, il a beaucoup avancé. A contrario, petite déception... concernant Damien Penaud, qui est vraiment un joueur que j'adore, et je le dis souvent tellement il a la classe, mais sur ce match-là, avec un vis-à-vis ailier qui sort, on aurait dû beaucoup plus voir Damien Penaud, qui aurait dû venir se proposer à hauteur dans des intervalles au milieu du terrain. Il n'a pas touché un ballon du match, il n'a pas avancé avec le ballon d'un mètre. C'est pas acceptable à ce niveau-là, et ça, je comprends pas du tout.
Moi, perso, je comprends pas l'idée que les gens sont fâchés avec lui, entre guillemets, parce que...
Non, pas fâchés. C'est juste objectif, Thierry. Ouais, on peut pas ne pas avancer d'un mètre avec le ballon dans un match international à 15 contre 14, avec les jambes qu'il a.
En foot américain, si tu attrapes pas le ballon, mais tu n'étais jamais lancé le ballon, c'est pas ta faute non plus. Tu vois. Donc,
Oui, mais tu peux venir te proposer. Et je pense qu'un joueur qui a ces qualités-là, il doit pouvoir venir faire des différences dans des petits intervalles en venant être un joueur supplémentaire sur des moments clés. Et il ne l'a pas du tout fait. Je ne dis pas que c'était facile. Ça m'a surpris, ça m'a déçu, et je pense que ça peut lui coûter un peu cher, parce qu'il y a du monde à l'aile quand même. Teddy Thomas fait plutôt un bon match. Gabin Villers, à chaque fois qu'il rentre, il marque des points. Il a marqué quand même 2 essais au match 2. Donc, un peu compliqué pour Damien Penaud. J'espère que ce sera une remise en question pour lui. Ça reste un joueur de classe. J'adore le voir jouer.
Ouais, voilà. Franchement, moi aussi. Là, moi, je
trouve qu'il est un peu passé au travers. Ça m'inquiète un peu pour lui.
Moi, perso, je lui adore en défense, et surtout le contre-ruck et tout ce genre de choses. Je trouve j'ai l'impression qu'il adore faire ça. Et j'aime bien les joueurs qui aiment jouer en défense aussi. Donc, c'est pour ça que j'aime Vincent, d'ailleurs.
C'est vrai, mais il a de telles qualités offensives que de ne pas le voir sur un match comme ça, ça coûte cher. Et surtout à 15 contre 14, c'est pas trop acceptable. Puis j'ai adoré Cameron Wauchee, que depuis l'Autumn's Cup, où il avait fait une super prestation rentrant en équipe de France, à chaque fois qu'on lui donne sa chance, il répond présent. Je pense que ce sera aussi un grand bonhomme de la Coupe du Monde 2023, j'en suis certain, parce qu'il est hyper précieux dans le jeu aérien. C'est un très bon défenseur. Et il marque un essai de basketteur là. Qu'est-ce qu'il a fait, hein? Il a sauté au-dessus du monde pour marquer de l'autre côté. Mais en fait, ça prouve qu'en plus il est intelligent, donc c'est bien.
En fait, c'est assez marrant, parce qu'en foot américain, on voit ça assez souvent. Il y a un mec qui court comme un fou, qui saute au-dessus de tout le monde pour plaquer Absolument. Le ballon. Je suis pas sûr si c'est dans les règles en rugby ou pas. On a le droit de faire ça?
Il a le droit, tant qu'il n'est pas plaqué, tu as le droit de sauter pour marquer. Hein.
Ouais, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi on voit pas ça en rugby, parce qu'on voit ça très souvent. C'est à 1 mètre, tu as un mec qui court comme un fou depuis 10 mètres derrière, qui saute au-dessus de tout le monde, et voilà, ça marque.
Bref. C'est peut-être une proposition de combinaison à leur souffler, à leur glisser à l'oreille.
Oui, voilà. Tiens, je reviens aussi sur cette carte en rouge. Carte en rouge ou pas pour toi ?
Évidemment. Évidemment, carton rouge, c'est toujours une grande déception d'avoir un match déséquilibré par un carton, quoique ça leur a pas porté préjudice. Mais on le dit, les règles changent. La sécurité, c'est la priorité absolue. Le visage, la tête des joueurs, c'est la zone de sécurité absolue. Donc, épaule, contact direct sur le menton de Jelonge, c'est de la faute du défenseur, c'est tout. Il a qu'à être plus bas pour défendre, ou alors il défend pas. C'est tout. C'est que l'attaquant avait raison d'arriver un peu la tête en bas. C'est la responsabilité du défenseur d'être en charge de la sécurité, de l'intégrité physique des attaquants. C'est la nouvelle norme au rugby. Donc évidemment, même si c'est horriblement décevant pour les Australiens, surtout qu'ils leur sortent leur meilleur joueur, qui est énorme. Ce mec est énorme. Voilà. Maintenant, moi, je suis toujours un peu déçu quand il y a un rouge, mais celui-là, il n'est pas contestable.
Oui, parce que moi, j'avais regardé ça avec un version Sky Sports avec Mertens, par exemple, Andrew Mertens de Nouvelle-Zélande en tant que commentateur. En fait, il ne voyait pas de mal. En fait, il disait non, c'est un plaquage normal, ça ne devait pas, même pas être un carton. Donc, ouais. Et le public non plus, le public australien, il trouvait
ça
normal.
Mais bien sûr, mais dans le public, c'est normal. Mais ouais. Quand tu vois les images au ralenti, c'est normal.
Bon, finalement, en fait, j'ai appris qu'il y a un trophée dans ce tournoi.
Oui, alors la Fédération française avait décidé en 1989 de créer un truc qui s'appelle le trophée des bicentenaires. Alors, le trophée des bicentenaires, en 1989, c'était le bicentenaire de la Révolution française. Mais toi, t'en savais rien, t'étais en Caroline du Nord en train de jouer au basket sur un playground en bouffant des Big Mac.
Voilà. Le barbecue aussi.
Voilà. Et en Australie, la colonisation de l'Australie, c'était 1788. Et donc, il y avait un bicentenaire de la colonisation d'un côté, un bicentenaire de la Révolution française de l'autre. Bon, honnêtement, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais ils avaient créé le trophée des bicentenaires. Et à chaque fois qu'on rencontre, que ce soit en Australie ou en France, sur une série de tests, l'Australie, eh bien, on s'échange le trophée des bicentenaires. Voilà. Et donc, il est propre uniquement aux rencontres France-Australie sur des tournées, qu'elles soient chez nous ou chez eux. Voilà, c'était la minute culture.
J'aime bien. Bon, tout ça pour dire que j'ai adoré cette série et je n'étais pas le seul. Je pense que tout ce que j'ai vu sur Twitter, toutes les personnes en Grande-Bretagne qui suivent le rugby, ils ont adoré aussi. Et en fait, j'ai entendu une fois sur des commentateurs nouveaux-zélandais, ils disaient attention, cette équipe française qui sont favorites for the World Cup.
C'est facile de dire ça pour les Blacks qui sont toujours eux-mêmes un peu favoris pour les World Cup, mais le fait est qu'ils ne les gagnent pas toujours. Ils l'ont malgré tout gagné que 3 fois, même si ça reste la grande équipe qui domine ce sport, pour plein de raisons, on ne va pas y revenir. Mais on ne peut pas complètement leur donner tort. Ce sera chez nous, ce sera avec un sorcier aux manettes, Fabien Galthié, qui est un mec remarquablement intelligent et qui est, à mon avis, un excellent manager, flanqué de Raphaël Bagnès, qui est un mec remarquable également. Et ils ont une génération unique, comme on a tous les 30 ans, qui a été en plus 2 fois championne du monde U20 juste avant. Donc ce sont de jeunes joueurs qui se sont construits des palmarès de winners de bonheur dans leur vie. Et je pense que c'est très important. Ils sont tous tendus vers cet objectif. Est-ce que ça ne va pas être le piège de se croire favori? C'est tout le travail que doit faire Galthié, que doit faire son équipe, pour que surtout, ils n'arrivent pas dans une posture de favori, parce qu'on sait très bien qu'au rugby, quand on est favori, en général, on perd. Tout simplement parce qu'on donne des raisons de vouloir déboulonner la statue à l'équipe qui n'est pas favorite, à toutes les autres équipes qui ne sont pas favorites, et ça devient extrêmement dur de le rester. Donc c'est tout le défi, c'est tout le challenge des 2 ans qui nous viennent, qui nous attendent, et effectivement, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, la France est un peu favorite, mais à J-2 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire du tout.
Oui, mais en même temps, il faut gagner les Six Nations, il faut gagner le Optimization Cup, il faut gagner le tournoi. Je viens de voir sur Canal+, il y avait un espèce de documentaire qui s'appelle les Building Jerusalem. Je n'ai pas compris le nom, mais en gros, c'était un documentaire sur l'équipe anglaise qui a gagné la Coupe du Monde avec Wilkinson.
C'est génial. Le reportage est génial et vraiment, on vous le recommande. Ouais,
ouais, franchement, il est vraiment intéressant. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir, bon, il y avait cette coach Clive Woodward qui arrivait et d'un coup, bon, ils ont tout perdu. Et après, ils avaient 2 ans, je ne savais pas, ils avaient 2 ans, ils n'avaient pas perdu un match en fait. Quand ils arrivaient dans la Coupe du Monde, ils perdaient, il me semble, ils étaient très proches dans la demi-finale de perdre ce match-là. Bah, en fait, quand tu n'as pas perdu pendant 2 ans, bah, c'est ça qui leur donnait la force.
C'est les 2 ans qui nous attendent où les Français doivent se construire une histoire à eux où ils arrêtent de perdre ces matchs-là 33-30, mais où ils les gagnent. C'est tout. C'est la grande différence entre cette équipe d'aujourd'hui et l'équipe, si elle est championne du monde dans 2 ans, elle aura vaincu cette malédiction d'avoir des presque victoires comme ça, qui sont saluables parce qu'elles sont belles, mais en fait, qui sont quand même des défaites. Et ça, il faut absolument qu'ils arrivent à tuer ce truc-là. C'est tout leur boulot. Alors, Building Jérusalem, c'est évidemment lié à... C'est une référence forcément historico-biblique. La Jérusalem céleste, c'est le paradis, si tu veux. Donc, et Jérusalem, c'était la terre de prédilection des croisés qui sont dans les tribunes des supporters anglais, sont souvent, tu sais, en croisée. Donc, c'est une sorte de... construction de la Jérusalem céleste du rugby, qui était le leur, qui était leur paradis rêvé, qui était d'être champion du monde. Et c'est comment ils ont construit ce truc-là. Ce reportage est absolument remarquable. Ils avaient aussi pour ça des joueurs d'exception, Johnny Wilkinson, Martin Johnson, qui ont tenu cette équipe à bout de bras, l'un devant, l'autre derrière, qui sont les grands bonshommes de cette aventure-là. Il faut qu'on trouve nos têtes de gondole comme ça, qui sont les mecs incontestables. C'est une des grandes difficultés, tellement on a de qualité aujourd'hui. Ouais. Qui va être le taulier, le patron devant, et le taulier, le patron derrière? C'est pas complètement écrit.
Ouais, mais quand même, je pense qu'on a des bonnes idées avec notre 9-10, avec qui on a en devant. Mais en gros, depuis qu'on fait ce podcast, cette équipe de France a beaucoup évolué dans sa capacité de finir ses matchs par rapport à ce qu'on a vu il y a 2, 3, 4, 5 ans.
C'est incontestable. Il y a eu des décennies où ces matchs-là, on ne les perdait pas de 3 points, on les perdait de 12, 15, 18 points. Parce qu'on passait à côté pendant 20 minutes. Là, ils sont passés à côté pendant 2 fois 1 minute. Oui, il y a la passe interceptée de Couillou qui est malheureuse. Et puis, effectivement, il y a 5, 6 minutes, 10 minutes en deuxième mi-temps où ils font des conneries. Ils relancent à un moment, bêtement, ils font des relances de leur en but au lieu de se débarrasser du ballon au pied. Paf, on se fait coffrer le ballon, pénalité, 3 points. Ils ont fait plusieurs bêtises en deuxième mi-temps. Mais c'est aussi parce que ce sont des matchs entre guillemets sans enjeu. Ça reste des test matchs, des matchs amicaux. Ils voulaient avoir le plus de panache. Donc ils ont fait des erreurs liées à ça. En demi-finale de Coupe du Monde, ils ne feront pas la même. C'est une certitude. Donc il faut y croire, bien sûr.
Bon, on a parlé de l'avenir de notre 15 de France, mais aussi, pourquoi pas, l'avenir des U20, parce qu'ils ont plutôt bien joué, les Français, dans ce 6 nations U20 qu'on a été pas beaucoup médiatisé, on va dire. Mais quand même, la France a une belle deuxième place.
Ouais, ils finissent deuxième, effectivement, derrière, bon, les Anglais, hein, malheureusement, mais devant les Irlandais, les Gallois, etc. C'est les Écossais qui finissent tout en bas, c'est un petit peu surprenant. Après, c'est des championnats un peu particuliers, des années de Covid et compagnie, mais bon.
Mais quand même, j'ai vu pas mal des résumés de ces matchs-là, et je trouvais l'équipe de France vraiment très très fort, avec des belles victoires, et même, il y avait un moment où on gagnait contre l'Angleterre, c'est notre seule perte, on gagnait contre 19-3 au premier mi-temps. Donc, bon, bravo pour ces jeunes, et j'espère plein de bonnes choses pour la suite.
Ouais, c'est encourageant et on voit bien de toute façon que les succès appellent les succès et le fait qu'il y ait une belle jeunesse en équipe de France donne de l'énergie à tous les autres en dessous, hein, leur fait croire en leur étoile aussi et ça tire tout vers le haut, c'est ça qui est génial.
Ouais. Allez, pour finir, pour cet été, j'ai pensé que ça peut être intéressant de faire un petit interview pour un nouveau livre qui est sorti sur le rugby. Donc là, tout de suite, on va aller vers Xavier Brissard, donc un petit entretien avec lui par rapport à son livre qui s'appelle
« L'art de la guerre du rugby » avec une super couverture avec un guerrier alors, chinois ou japonais, peut-être plutôt chinois si c'est l'art de la guerre, oui. Mais en tout cas, il porte un ballon de rugby, il y a des beaux caractères. Je pense que c'est sûrement aussi du chinois plus que du japonais. Je connais ni l'un ni l'autre. Mais en tout cas, c'est tout à fait engageant et on a envie de le lire.
Voilà, donc on va découvrir ça tout de suite. Voici mon petit extrait avec Xavier Brissard.
Pack de potes, terrain 10.
Alors, nous avons le plaisir d'interviewer plusieurs écrivains déjà sur ce podcast. Donc, Ian Bortwick et Monsieur Ruzigby, si je prononce bien. Et aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir avec nous Xavier Brissard, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « L'art de la guerre du rugby ». Bonjour Xavier.
Bonjour à vous. Merci de m'accueillir.
Bien sûr. Donc, vous êtes rugbyman, mais aussi éducateur, c'est bien ça?
C'est bien ça. Alors, je suis ancien rugbyman, parce que je commence à être un peu âgé. Donc, quand mon corps le veut bien, encore un peu en loisir, mais on va dire ancien rugbyman plutôt. Et oui, éducateur depuis une quinzaine d'années.
Et donc là, vous avez écrit un livre, et j'adore le titre, L'art de la guerre de rugby, mais est-ce que vous pouvez nous dire, ça part de quoi exactement?
C'est un titre déjà qui fait polémique parce que le mot guerre fait peur à beaucoup de gens, mais il faut pas oublier qu'on fait un sport de combat et d'évitement, et donc il y a quand même le combat dans le rugby, faut pas l'oublier. C'est aussi un livre qui fait référence à Maître Tsao qui a écrit L'art de la guerre, qui est un livre très psychologique, qui est très sur l'approche du combat. Une des phrases qui m'a vraiment le plus plu, c'est battre l'ennemi sans combattre. Voilà. Et donc c'est un parallèle de tout ça. Je pars du principe que le rugby est un sport intellectuel et manuel, et qu'on oublie trop souvent le côté intellectuel, le côté psychologique. Voilà. Donc le titre vient de là, cette association intelligente et puis technique.
D'accord. Et pourquoi ce livre? Alors, parce qu'un livre, ça prend énormément de temps et énergie pour écrire. Et pourquoi vous avez senti la nécessité de l'écrire? Ça vient d'où, en fait, la petite graine qui a fait sortir ce livre qui était en vous?
Alors, il y a plusieurs petites graines qui ont germé dans ma tête. La première, c'est j'ai eu la chance d'entraîner mon fils qui avait une croissance tardive, donc un petit gabarit. Et j'ai commencé à entraîner dans un petit club de banlieue parisienne où on va dire que c'est du rugby de masse, du rugby plaisir, du rugby pour tous. Et puis j'ai eu la chance ensuite d'aller entraîner à Massy, qui est quand même un des meilleurs centres de formation de France. Et il y a un vrai fossé entre la formation des clubs de masse et la formation des clubs dits formateurs ou dits d'élite. Et donc je me suis demandé ce qui manquait entre les deux formations, est-ce que je pouvais essayer de combler un peu le fossé? Il y a aussi le fait que en France, c'est en train d'évoluer, mais depuis longtemps, on sélectionne d'abord sur le physique, taille, poids, puissance, vitesse, plus que sur l'intelligence de jeu et la technique individuelle. Ce qui fait que un gamin qui n'a pas un physique hors norme et qui est dans un petit club, un club de masse, n'aura pas la technique, ni la vision du jeu pour pouvoir avoir ses chances, s'il veut aller plus haut. Et donc, je critique pas ni les clubs de masse ni les clubs élites. Je dis juste qu'un gamin qui commence le rugby à côté de chez lui, comme tous les gamins font, s'il n'a pas un physique hors norme, il a très peu de chances de pouvoir s'en sortir s'il a envie d'aller plus haut. S'il a envie juste de rester jouer avec ses potes, de s'éclater et de prendre du plaisir, le club de masse, c'est formidable, c'est fait pour lui. Mais s'il a envie de vraiment d'essayer de faire carrière, même s'il n'y arrive pas, mais si c'est son rêve, bah, le bagage qu'on fournit dans ces clubs-là, c'est pas forcément, ça donne pas forcément la possibilité d'ouvrir la porte au club plus haut. Donc il manquait une pierre à entre ces deux formations et essayer de créer un lien. Donc j'ai voilà, c'était ça la graine principale, on va dire, pour ce livre.
Dans tous les cas, ça me donne envie de comprendre un peu plus sur cette fossée, mais en même temps, on ne va pas se faire livrer tout le livre là tout de suite comme ça. Mais il y a cette idée de dire prendre les meilleurs des deux choses, mais aussi ce qui manque aussi dans ces deux cas-là, si j'ai bien compris.
C'est un pont, ouais, c'est un lien. C'est pas fait pour. Quand je parle de petit club, c'est pas péjoratif. C'est le club de masse, c'est le club à côté de chez soi. Souvent, les éducateurs sont des papas joueurs, donc ont plus ou moins joué à bon niveau, ont plus ou moins une formation pédagogique. Et puis c'est pareil. Même si c'est des excellents joueurs, c'est pas forcément des très bons éducateurs. C'est pas la même chose. Moi, j'étais pas un super bon joueur et j'espère que je suis pas un trop mauvais éducateur. Donc, ça, plus le fait que les gamins qui viennent jouer dans ces clubs-là, bah, ils viennent peut-être plus pour s'amuser avec les potes autour de la balle, ce qui est le plus important. Mais si dans ces clubs-là, il y a un gamin qui veut faire carrière, il faut qu'on puisse lui donner la chance d'essayer. Ce qu'on fait tous, hein, dans ces petits clubs, dans les grands clubs, ou ce que j'ai essayé de faire, ça ne garantit pas la réussite, mais au moins qu'il ait des billes pour pouvoir tenter sa chance. Voilà, c'était ça vraiment le moteur.
Donc, ce que j'entends, c'est les personnes intéressées, ça serait plutôt, on va dire, des éducateurs, des personnes qui jouent au rugby aujourd'hui, ou des jeunes, ou des parents aussi. Moi, je pense que bon, dans le pack de potes, on a deux, Théo et Charlie, tous les deux, ils sont éducateurs. Donc, je pense que je vais les offrir ça
C'est une bonne
pour
idée.
cadeau pour l'été. Aussi, si j'ai bien compris dans les reviews, que le style était un peu différent aussi, c'est bien ça?
Alors, c'est pas parce qu'on écrit un livre qu'on est écrivain. Et donc, j'ai pas la prétention d'avoir un style littéraire. Et du coup, faut faire ce qu'on maîtrise. Et ce que je maîtrise, c'est de parler sur le bord du terrain aux gamins ou aux parents, peu importe. Et donc, ce livre, il est écrit un peu comme si je parlais au bord du pré. Voilà, c'est du parler, c'est simple à lire, c'est écrit par un sportif pour des sportifs, entre guillemets. Voilà.
Bah, parfait. Donc, si vous êtes amoureux de rugby, vous cherchez un livre pour cet été, allez trouver L'art de la guerre de rugby par Xavier Brissard, notre invité. Et si vous êtes à Paris, allez à la librairie Gros Câlin dans le 8e, c'est 72 rue de Miromesnil. C'est tenu par un de mes anciens coéquipiers, Garrick, qui se connaît très très bien. Donc, merci beaucoup, Xavier.
Eh ben, merci à vous.
Et bon, revenez pour la prochaine livre, ça vous va?
Eh ben, alors je vais pas écrire des livres tous les 2 ans quand même. C'est un gros boulot, c'est dur. Mais avec plaisir pour revenir échanger, discuter, sans problème.
Superbe. Merci Xavier. Bye
Bye, merci.
Voilà, et puis chers amis, ben, on vous embrasse, on vous souhaite un bon été. N'hésitez pas à nous faire des petits coucous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et même les revues sur votre plateforme de podcast. Puis on embrasse aussi Charlie et Alban qui nous manquent. On espère les retrouver tranquillement à la rentrée pour des épisodes tous les quatre qui sont aussi très sympas. Alors Charlie et Alban et tous nos écouteurs, on vous embrasse.
Oui, donc on va essayer de vous faire un petit épisode sur le rugby Sevens pendant les Jeux Olympiques. Donc ça peut être sympa. Et peut-être un petit point sur les Lions si on arrive pendant ces vacances. Donc tous les cas, amusez-vous bien cet été et bon rugby. Allez, ciao, ciao.
Bon rugby, bye bye.